Alors, donc il est 10h07, hein, on va continuer naturellement.
Il fallait mettre le petit bouton, il est 10h07, on va continuer cette émission Tribune Sport avec le rédacteur en chef de l'équipe, Étienne Bonamy, et puis ensuite ça sera donc Tribune Rugby à partir de 10h30 avec Jean-Michel. Alors, on va commenter l'actualité, puis on va laisser le rugby pour la dernière demi-heure. Hein,
c'est l'actualité.
Voilà, c'est ça, absolument. Un petit mot d'abord sur les Jeux de Pékin. Ces Jeux, ça vous enthousiaste ou alors vous auriez préféré aller ailleurs qu'à Pékin?
Alors en 2001, ouais. J'étais à Moscou lorsqu'il y a eu le vote de la ville haute, donc c'est Pékin. Clairement, nous on avait dit qu'on ne souhaitait pas que les Jeux aient lieu à Pékin. Non pas qu'on ne pense pas que la Chine puisse les organiser. Eh bien, j'en reviens là, j'y étais deux fois et voilà, ça sera bien organisé. Voilà, ils ont fait, je ne sais pas à quel prix, mais ils ont fait d'excellentes installations. Nous on estimait que et on l'a redit récemment, voilà, que on s'est prononcé pour dire que on souhaitait pas que les Jeux aient lieu à Pékin pour ce que ça représentait de promotion pour le gouvernement chinois, pas pour le peuple chinois. Maintenant c'est décidé, une fois que c'est décidé qu'on aille à Pékin, c'est pas nous qui votons, ce sont les membres du CIO. J'ai pas entendu d'énormes protestations à l'époque, j'ai même entendu plutôt un discours de voilà, si ça peut faire changer les choses. Actuellement, ce qui fait changer les choses en Chine, c'est plutôt le commerce et l'argent que la possibilité d'avoir que l'organisation des Jeux Olympiques. Voilà. Ça, c'est pour le domaine, on va dire, politique de l'affaire, tel que je le vois. Maintenant, sportivement, j'y étais début septembre, après les championnats du monde d'athlétisme à Osaka. Je sais pas si tout le monde s'attend à avoir des conditions atmosphériques et des conditions d'entraînement top. Ça, mais
ouais, en plein mois d'août, ouais.
Voilà, c'est généralement nous avons un bureau à Pékin et les gens qui y travaillent nous disent que c'est la pire période pour organiser des compétitions sportives. Voilà, je parle de celles qui sont en plein air, la piscine et tout ce qui est en gymnase n'en souffrira pas. Voilà, mais j'étais à Atlanta, il faisait très chaud.
On peut craindre certains boycotts.
A priori, pour l'instant, il n'en est pas question, mais bon, la situation en Birmanie, comme la situation au Darfour, il y a quelques mois, ont amené en effet des gouvernements, dont le gouvernement français, à vouloir... Pourquoi pas utiliser la menace du boycott pour faire pression sur le gouvernement chinois. C'est que la Chine au conseil à l'ONU peut avoir un poids en ne mettant pas son veto pour débloquer la situation birmane. Ça peut. Je verrai pas un boycott des États africains, parce que la Chine aide beaucoup de ces pays-là. S'il y a un boycott, il viendra de nations européennes ou des États-Unis. J'ai l'impression qu'on est dans la menace plus que dans l'intention réelle de le faire actuellement.
D'accord. Et pour français, comment vous voyez ces Jeux? On n'a pas une période très très favorable.
On a eu, justement, je suis rentré de Pékin le 6 septembre. Derrière, il y avait le 7, il y avait l'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Le 8, il y avait Italie-France. Le 12, ouais, ouais. Il y avait France-Écosse. Il y avait l'Euro de basket. Ouais, il y avait l'Euro de volley. Ouais. Et je me rappelle, au journal,
je disais... vous connaissez
le judo. Voilà. Mieux, ouais. Et le judo. Et ouais, justement, ouais. On en parlait le midi de l'ouverture de la Coupe du monde. Je revenais, c'est bien, les Jeux, c'est comme ça, comment ça s'organise. Je dis, en plus, là, franchement... entre le basket, tout ça qu'il y a là, ça commence, il y a un esprit de la victoire, ça. 15 jours après, patatras, c'est pas fini pour le rugby, c'est pas fini pour le foot, je le souhaite. Il y a plus de volley, il y a plus de basket féminin, donc certain que même si le rugby et le foot n'ont jamais, enfin le rugby n'est plus au jeu et le foot depuis 84 n'a plus fait grand chose. Le français, il n'est même pas qualifié pour Pékin. On se dit, ça donne un coup sur la tête au niveau ambiance. Maintenant, voilà.
Ça peut changer, quoi.
Je m'inquiète pas trop. On n'aura pas la grosse trentaine de médailles d'Athènes et encore moins les 38 de Sydney. On sait qu'on aura une grosse première semaine, comme traditionnellement, forte, parce que voilà, il y a du canoë, il y a de la natation, Laure Manaudou. Sermet à nager dans le bassin d'Ambérieu. Donc voilà, on sait. C'est la deuxième semaine qui va être un peu plus longue.
Vous êtes confiant, Étienne, pour Manaudou, on peut être
confiant. C'est-à-dire qu'elle a. Elle est encore au-dessus de ses concurrentes, sauf que les concurrentes, elles... Elles ne se posent pas les questions que Laure Manaudou s'est posées. On sait que les 10 premiers jours des Jeux sont toujours favorables à la délégation française, parce que Teddy Riner, notamment, voilà. Mais on sait que c'est des sports, l'escrime, voilà. La deuxième semaine va être un peu plus longue, parce qu'il y a l'athlétisme, et bon, j'étais à Osaka, ça a moyennement marché, hein. Ça peut un peu mieux marcher, à Pékin, mais ça n'avait pas marché à Sydney, ça n'avait pas marché à Athènes. Ouais. On verra bien. Ouais. Et puis il n'y aura pas le volley, il n'y aura pas le basket, c'est un peu dommage. Il y aura le handball parce que
Quel gâchis, le basket.
Le basket, c'est franchement. Quand je vois la finale de 2000, à Sydney, où il n'y a aucun joueur de NBA parmi l'équipe de France, mais ils ont un cœur énorme, emmené par Laurent Ciara, ça joue, on se dit, c'est incroyable, ils sont devant les États-Unis, on se dit, bon, voilà, c'est parti. Derrière, la Fédération française voit plein de très très bons joueurs, je parle même pas de Tony Parker, évidemment, mais de très bons joueurs qui sont draftés en NBA, je parle pas du niveau du championnat de France, mais on se dit, il y a une masse. Si on est allé en finale, en 2000, même avec un concours de circonstances qui fait qu'on peut éviter un tel par les résultats et tout, derrière, patatras, c'est pas normal. C'est pas normal, hein. Franchement. C'est plus qu'une déception, c'est de la faute professionnelle. Hein.
Ouais. L'athlétisme, vous revenez des championnats du monde, hein. Il paraît que l'ambiance n'était pas très bonne.
L'ambiance n'était pas très studieuse,
ouais,
surtout.
Beaucoup ont fait la fête, c'est ça.
Non, pas beaucoup, non, faut ça, pas beaucoup, mais certains, moi j'ai toujours pensé que voilà, ils étaient 54, c'est une très grosse délégation, voilà, il y a des pays qui ont plus de médailles et plus de résultats, et ils emmènent franchement ceux qui peuvent entrer en finale. Là, en France, on annonce toujours, là, le président et le DTN l'ont annoncé pour Pékin, on va pas emmener les touristes. Il n'y aura pas 54 athlètes, parce qu'au jeu c'est plus strict, c'est-à-dire que la délégation française peut pas non plus emmener tout le monde, mais ça part toujours de cette fois-ci, hein, on emmène que des gars ou des filles qui veulent, et puis bon, on emmène, mais on va quand même lui donner sa chance, puis un tel, ça serait bien, puis pour le moral est arrivé, on emmène toujours une délégation pléthorique, qui fait qu'en effet tout le monde n'a pas sa chance, que tout le monde n'est pas mobilisé tous les jours, parce que quand vous êtes le premier jour et que vous êtes éliminé, il vous reste la semaine à passer. Il y avait une ambiance, je veux dire, là, qui s'est, l'absence de résultats, qui s'est un peu délité au cours de la semaine. Alors c'est facile de dire en fin de semaine, ouais, les gars sortez, allez faire des courses, allez acheter un iPod et tout. C'est pas, il y a pas que ça, franchement.
C'est un tout.
Tant mieux. Hein, et s'il y a eu 4 médailles. Qu'on ait retrouvé 15 Français en train d'acheter un appareil photo, on n'aurait pas dit c'est des touristes. Voilà. Je pense que c'est plus de rigueur avant. D'aller à un championnat du monde, c'est pas une récompense. Si on y va, c'est qu'on estime. Imaginons que le rugby dise, bon, les gars, j'en prends 80 comme ça. Bon, il y en a que 30, hein, mais au moins ça fait plaisir à tout le monde. On fait pas du sport de niveau pour. On ne décide pas de qui. Et pour le sport de haut niveau, pour faire plaisir, voilà. C'est ça l'erreur qui est répétée. Alors c'est vrai qu'on reste sur le souvenir de 2003-2005 où il y avait des bons résultats. Là, je pense qu'ils ont un peu compris, puis ils vont servir un peu plus, voilà.
Tiens, au fait, on n'a pas parlé des rapports que vous aviez avec les sportifs actuellement. C'est plus difficile qu'il y a une vingtaine d'années, il faut passer par des intermédiaires.
Ah oui, alors là, oui, c'est
plus, c'est-à-dire que journaliste aujourd'hui, voilà, c'est plus dur. On prend plus le car ensemble, quoi. On
voilà, non mais moi,
comme ça se faisait avant. Quoi.
Oui, je suis connu. Je suis pas trop vieux, mais voilà, j'ai connu d'autres confrères. Voilà, des moments où on voyageait avec, longtemps occupé de football, on voyageait avec les footeux. Voilà, on pouvait voyager avec les gens du tennis. Voilà, il y avait une une proximité qui parfois pouvait être aussi dérangeante, qui fait que lorsque vous vivez dans l'intimité des gens, on vous fait comprendre que vous faites partie de la famille. Mmh. Et tu vas pas le dire, voilà. Donc ça bloquait aussi certaines choses, mais au moins il y avait une proximité. Les yeux dans les yeux, vous pouviez dire à quelqu'un, vous pouviez entrer le vestiaire de l'équipe de France, vestiaire de Marseille, vestiaire du PSG, vous rentriez à quelqu'un, vous pouviez lui dire, j'ai vu une manne de Bordeaux, le Bordeaux où était Méjaquet, se faire, par Claude Besse, se faire amener, qu'on posait des questions, pas spécialement moi, mais tout le monde, des questions, on vous ramenait à la porte du vestiaire, mais les gens mettaient un nom sur qui avait fait quoi et comment. Voilà, il y avait des rapports plus francs, on s'engueulait, il y a des gens avec qui je me suis engueulé, des gens avec qui je me suis réconcilié, mais c'était plus direct. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la personne qui veut avoir Thierry Henry, bon, nous on a des gens qui on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont au contact. Voilà, pour parler à Thierry Henry, peu importe le caractère de Thierry Henry, hein, c'est pas ça, mais pour parler à Thierry Henry, à Lilian Thuram, à Zinedine Zidane, d'abord, il joue pas dans le championnat, Zinedine a arrêté, mais il joue pas dans le championnat de France, donc Thuram, nous, on le voit souvent à Barcelone, comme on le voyait à Turin avant. Cette proximité, elle existe plus géographiquement, elle existe difficilement dans le relationnel, parce que le numéro de téléphone, vous ne les avez pas. C'est pas évident. C'est pas l'augmentation des agents, mais la politique de communication des clubs. Le rugby, on parlait tout à l'heure, mais le rugby fait un point presse où maintenant, vous arrivez deux jours avant un match, comme le fait le foot, on vous dit, c'est Bonner et Époux qui sont là. Vous disiez, mince, j'aurais bien vu Michalak. vous faites Bonner et Époux. Et d'ailleurs, je trouve que par moments, ça banalise un peu le traitement dans les journaux. Il y a des fois, les envoyés spéciaux, la rente de Marc aussi, ils me disent, il y avait Michalak et Thion. Bon, je suis sûr que si j'ouvre la presse, et si je regarde les sites internet, tout le monde, le lendemain, fait du Michalak et du Thion, parce qu'il n'y a que cette ouverture-là. Sauf si vous les connaissez bien, vous les avez au téléphone, ce qu'on arrive à faire et tout. Mais voilà, c'est ce côté un peu, on vous donne l'information, on vous donne l'accès à l'information qu'on en a décidé. Forcément, quand on vous dit pas où est la boîte de gâteau, vous essayez de chercher partout pour la trouver. Donc c'est plus vous êtes nombreux, et on l'est à l'équipe, plus il est important que vous donniez de l'information. Et chez nous, c'est quand même le pain de tous les jours. Vous cherchez à l'avoir, donc ça peut donner des frictions avec des fédérations, des entraîneurs, des joueurs, des managers, parce que par moment on gratte là où ils pensent que ça serait beaucoup plus facile d'être lisse.
Alors on parle toujours de l'actualité. Je voudrais qu'on revienne quand même sur le Tour de France. Vous êtes optimiste pour la suite de cette épreuve ?
Optimiste. Sur le Tour de France, oui. Le Tour de France, c'est peut-être un lieu commun.
C'est une institution.
Il peut avoir lieu tout le temps, le Tour de France. je sais pas si les gens, les gens sont marqués par le dopage, voilà. Mais franchement, est-ce que lorsque on se met au bord de la route et qu'on est à l'arrivée d'une étape, on se dit si c'est pas Bettini qui emmène le truc, c'est pas sérieux. S'ils ont pas roulé à 35 dans la montée, dans les 17 tournants, j'y crois plus. Je pense pas. Après, ce qui est énervant, c'est de se dire que finalement, ce que vous voyez, pas seulement le résultat de la course, mais la façon dont ça fonctionne, c'est complètement biaisé, parce que les gens trichent, les gens n'arrivent pas à sortir. Alors, c'est sans doute très dur, n'arrivent pas à sortir de cet engrenage qui fait que ok, on arrête, mais t'arrêtes le premier, je te suis. Voilà. Il y a toujours. Il y a eu l'affaire Festina, et des affaires de dopage, il y en a eu bien avant l'affaire Festina, mais la plus connue pour nous, celle qui a le plus marqué le public français, c'est Festina. Et franchement, à ce moment-là, je me disais, ça va pas s'arrêter, mais au moins, avec le coup que...
Ouais, ça va se...
on voit que ça continue, parce qu'il y a toujours... Je doute, moi je veux bien arrêter, mais je doute que le voisin le fasse aussi. Voilà. Donc, les organisateurs sont pris... moi, je suis toujours un peu surpris. Je connais pas spécialement les gens, à part Christian Prudhomme, parce que c'est un confrère que je connaissais avant. Je connais pas spécialement les gens d'ASO, mais je suis toujours surpris en pensant que quand les gens disent supprimons le Tour de France, Voilà, supprimons le Tour de France ou arrêtons le Tour de France. Très bien. Donc ça veut dire que si on arrête le Tour de France, on se dope plus à Paris-Nice, on se dope plus au Tour d'Italie, on se dope plus à Milan-San Remo.
Oui, puis on arrête tout. Alors on peut.
Imaginons. C'est pas le cas. Je pense pas que ça soit le souhait des organisateurs. Mais on supprime le Tour de France ou alors on supprime Paris-Roubaix. Voilà. On supprime Paris-Roubaix. L'année d'après, il y a une course qui va avoir lieu à Eindhoven. C'est un programme. On va pas arrêter ça. On va pas arrêter ça en disant hop, la course la plus connue, on l'enlève. Donc ça veut dire que les gars, ils se dopent plus. Franchement, on ne prend des dopés que sur le Tour de France. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on ne prenne plus de dopés nulle part. Je veux dire, Tyler Hamilton, il se fait avoir aux Jeux Olympiques. Voilà. Alors supprimons le vélo des Jeux Olympiques. Non, c'est pas la solution. C'est pas de dire tiens, j'enlève le problème ou je le déplace. Comme ça, là, je ferme les yeux, hop, j'ai mis le couvercle dessus, il n'y a plus de problème. Non, ça serait, si c'était ça la solution idéale, franchement, ça serait bien, mais j'y crois pas. Hein. Ouais, ça, c'est angélique.
C'est plus dur aujourd'hui quand même d'être enthousiaste devant une performance sportive, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu plus.
Ah, bon, on a des.
Un record du monde du 100 mètres, par exemple. Ah, mais aujourd'hui, on est un peu plus en.
On a des vrais doutes, réserve, mais ouais. D'ailleurs, on l'accompagne, nous, dans ce qu'on écrit, mais ça concerne tous les sports. Mm-hmm. Quand Laure Manaudou, c'était l'année dernière, Laure Manaudou bat tous les records au championnat d'Europe.
7 médailles, je crois.
Voilà. On a fait papier, les gens qui étaient à Budapest me disent on va faire un papier sur le dopage. Alors sur le coup je dis mais sur le dopage. Puis voilà, on est allé voir des entraîneurs étrangers et puis on en a parlé avec Philippe Lucas et Laure Manaudou, voilà, on va dire est-ce qu'il y a l'ombre du dopage, parce que Laure Manaudou, si elle est grecque, américaine, suisse, on dirait oulala, bon, même si son parcours, on l'a vu progresser. Les mêmes questions qu'on se pose pour se dire Tyson Gay ou Asafa Powell en athlée, ou alors la musculature des rugbymen. Voilà, on se pose des questions. Après, on peut, et on en parlait tout à l'heure du dopage, on trouve pas, on peut pas accuser sans preuve. Voilà. On peut pas accuser sans preuve. J'ai été au foot lorsqu'il y a eu l'affaire VAOM, et quand l'affaire VAOM est sortie, j'avais eu un courrier d'un professeur d'université de la région de Marseille. Depuis le temps que vous le saviez. J'ai dit oui, monsieur, j'aurais pu lui montrer la liste du papier bleu qu'envoyait régulièrement l'Olympique de Marseille dès qu'il y avait un soupçon qu'on pouvait commencer à écrire en disant c'est bizarre. Je vais pas vous rappeler l'histoire du jus d'orange dans le Marseille. Voilà. Quand vous avez pas de preuves. La seule chose qui est sûre, et ça je suis pour, c'est que lorsque c'est un policier qui pose des questions plutôt qu'un journaliste, on n'est pas des enquêteurs. Moi je peux pas mettre un cycliste dans un bureau et lui dire alors tu vas avouer, c'est pas mon rôle, ou un rugbyman ou un tennisman. Sauf que quand ils passent devant, on l'a vu avec le procès de l'affaire Festina, lorsqu'ils sont devant un juge, c'est plus la même chose. On l'a vu aux États-Unis, l'affaire Balco. Tout ce qui a tourné autour de Marion Jones, voilà, on a écrit, on est allé quand s'entraîner avec Charlie Francis, qui était l'ancien entraîneur de Ben Johnson. Voilà, on a été faire un article, ça, on recevait des lettres de son agent qui disait oh là là, attention, si vous continuez sur ce terrain-là, on vous met un procès. Là. On était à la limite de ce qu'on peut écrire, c'est-à-dire, faut pas non plus dire aux gens, oulala, il est pas clair, mais on vous dit pas tout, ça on peut pas, faut pas non plus jouer avec l'information n'importe comment. Mais le jour où ça s'est retrouvé, l'affaire Balco, et se sont retrouvés devant un jury avec vous plaidez coupable ou alors non coupable, mais monsieur vous risquez de 10 à 15 ans, c'est plus la même chose. Donc hop, oui je reconnais, je vais vous donner la liste des gens à qui je fournissais les produits. Je pense que cette collaboration justice sport, faut pas traquer tous les sportifs qui gagnent comme des délinquants potentiels, ça serait ridicule. Moi tant que quelqu'un, on n'a pas prouvé que si demain Tyson Gay il s'entraînait avec un type qui a été un entraîneur qui a été chopé 3 fois parce qu'il dopait ses athlètes et puis que son médecin il sort de prison parce qu'il vendait, on aurait des doutes. Tyson Gay, voilà, il court vite. Son entraîneur, il était en prison, mais pour autre chose. Et oui, on peut se dire, voilà, on lui a posé les questions d'ailleurs, mais on va pas non plus entretenir à chaque fois qu'il court, tiens, Tyson Gay, ça, ou Thomas Vauclair, 12 jours en maillot jaune, alors qu'il y a aucun Français qui le fait. Et donc, c'est bizarre. Non, on n'entretient pas la suspicion. Si on peut vivre avec le doute dans ce qu'on va écrire, dans ce qu'on va chercher. Non. Mais le but du jeu, c'est de trouver. Pas le but du jeu, de laisser planer quelque chose tout le temps. Non.
Un petit mot sur la Formule 1, parce qu'on on a une belle saison quand même de Formule 1. Donc ce matin, c'est Alonso qui a gagné. Hein, c'est
Hamilton,
ça, Hamilton,
Kovalainen, le pilote Renault, et Raikkonen. Si j'ai bien écouté la radio.
D'accord, ok. Donc ça fait une belle fin, ça fait une belle fin de saison. Hein. Ouais, il y a longtemps quand même. Hein, que...
Ben, c'est-à-dire que là aussi, le sport ou le succès en sport est parfois cruel, parce qu'on a eu Schumacher, qui est quand même un champion. On aime ou on n'aime pas, mais un des plus grands champions. Et bizarrement, la répétition de ses succès faisait que la Formule 1, l'intérêt pour la Formule 1, je parle pas des fondus de voitures, mais les gens qui disent tiens, je vais regarder un Grand Prix, l'intérêt pour la Formule 1baissait. Et c'est paradoxal. Vous avez un grand champion, une grande écurie, et les gens disent c'est toujours le même qui gagne. Donc c'est dur, c'est un peu injuste. Même moi je me le disais, encore Schumacher, il gagne, il a 10 tours d'avance, c'est un peu comme Lyon en foot.
Ouais, quand on fait derrière bientôt pour
le tennis, à un moment on se dit donc c'est pas juste, on va dire au sens de la morale, c'est pas juste, mais c'est vrai que dans le sport on aime qu'il y ait un premier et un deuxième et un troisième, mais que le deuxième il soit tout près du premier, que le troisième s'il avait pu arriver, là il y a plus de bagarres, je pense même qu'il y en a trop parce que c'est au sein de la même équipe, et j'espère que d'ici la fin des Grands Prix ils vont pas aller se mettre tout droit dans un virage à 300 à l'heure, je le souhaite pour eux, pour leur santé et pour même la crédibilité qu'on pourrait apporter à ce sport. Voilà, plus il y a d'enjeux, mieux c'est. Très sincèrement, je fais un aparté sur le foot, Lyon qui semblait et qui l'est peut-être toujours une machine à gagner inarrêtable, quelque part les ratés de son début de saison le rendent plus pas plus humain mais plus proche de du coup les gens disent Nancy est devant, Lorient revient, si Lyon avait 10 points d'avance maintenant, franchement on se battrait pour les 3e place, 4e place, ça lasse très vite.
Allez, un petit mot avant le ballon ovale sur le foot, justement pas très optimiste pour les Coupes d'Europe.
Les Coupes d'Europe, Lyon, ils ont pris une claque à Barcelone.
Il y a un monde d'écart, même deux mondes d'écart.
Là, on a vu que c'était pas le même niveau. Après, il reste les Glasgow Rangers, il reste Stuttgart. Ouais, c'est pas perdu. On a tellement été habitué à ce que Lyon termine premier de sa poule qu'on en oublie que le deuxième, il est quand même qualifié. Donc ça, et puis un nouveau système technique, tactique, tout ça, ça va se digérer. Peut-être que ça passera pas, mais là-dessus, c'est pas gênant. Sur les autres coupes, ce qui m'embête un petit peu, je lisais un écho, c'était hier matin chez nous, où Papin dit priorité avant le match de retour à Copenhague pour Lens, qui est 18e du championnat, qui a perdu hier en plus. Priorité au championnat. Ouais. Alors, je trouve ça un peu dommage, parce que dans la saison, tout le monde se bat pour être en Ligue des Champions, voire en Coupe de l'UEFA, via la Coupe de la Ligue, Coupe de France. Et puis, une fois que tout le monde y est, on sait que cette Coupe de l'UEFA, on n'apprend pas le règlement avec un tour et des poules, ça. On a l'impression que c'est le dernier des soucis des entraîneurs et qu'on revient. Je trouve ça un peu dommage parce que si ça n'intéresse personne, la Coupe de l'UEFA, faut que les clubs se battent pas pour ça. Alors, je sais qu'ils se battent aussi pour leur rang au championnat qui leur rapporte de l'argent, mais la Coupe de l'UEFA, c'est ce qu'en feront les clubs français aussi, hein.
Très bien. Allez, on va voir le carillon de tribune au rugby maintenant, Jean-Michel. Hein, donc place maintenant au ballon ovale. Voilà, alors Jean-Michel, ce soir, on saura.
Ce soir, on saura. on saura où...
Si l'équipe de France va à Cardiff, sur Marseille.
Parce que le fait d'aller à Cardiff, ça change quand même pas mal de choses. Bon.
C'est le Stade de France qui ira, pardon.
Pourquoi, qu'est-ce que tu as dit?
Non, j'avais dit l'autre quart de finale, je crois
c'est le Stade de France, ils sont premiers, c'est le Stade de France le dimanche,
c'est
et Cardiff
c'est
après-midi. Ils
voyagent beaucoup.
Et puis en plus on les a foutus dehors de Marcoussi.
En plus.
Bien, de quoi on parle?
On parle des matchs de hier, de ce fabuleux
Fidjian. Voilà. Alors parce qu'il s'est passé quelque chose quand même. Le public de la Beaujoire aura à la fois assisté à la plus belle rencontre pour l'heure de cette Coupe du Monde, ainsi qu'à la grosse surprise de ce premier tour avec l'élimination du Pays de Galles, nation historique du jeu. 20 ans après 1987, les Fidjiens disputeront pour la deuxième fois de leur histoire les quarts de finale face à l'Afrique du Sud. Ceci dit, il y avait beaucoup moins de participants en 1987. Il y avait beaucoup moins de participants. Mais bon. Ils vont donc participer au quart de finale face à l'Afrique du Sud, et ça, c'est pas rien. Alors, des retournements de situation, hier soir, 9 essais, un carton jaune, un suspense insoutenable. La partie était une vraie pub pour le rugby, en dépit de quelques fautes inévitables. J'ai mis quelques, mais j'aurais pu mettre nombreuses. De quelques fautes inévitables dans cette orgie de jeu. Proche du chaos après le repos, conséquence du carton jaune de Kera et de la furia galloise, les Fidjiens ont su se remobiliser pour arracher la décision à la 77e minute sur un essai du pilier Dewes. Une victoire loin d'être volée. Les Gallois, franchement palichons depuis l'ouverture de cette Coupe du Monde, ont donc tout perdu hier à la Beaujoire. Battus sur le fil, les joueurs de Gareth Jenkins viennent d'écrire une page bien sombre du glorieux rugby gallois, absent du Grand 8 mondial pour la troisième fois de son histoire. Dans une partie très débridée, le Poirot n'a jamais pris la mesure des événements, à l'image de sa charnière John Spill et Shane Williams, qui avaient pourtant remis les siens sur les rails après un raid exceptionnel. Le jeune prodige Hook a alterné le bon et le moins bon au centre. Le rideau défensif a été déchiré à de trop nombreuses reprises. Censé être supérieur dans le combat aura et en conquête, le pack gallois a souffert de mille maux, à l'image de la seconde ligne, piètre seconde ligne. Les prochaines semaines risquent d'être animées au pays des Diables Rouges. Voilà. Si on retrace un petit peu le jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, tous les trois, bien sûr qu'il y a eu les puristes diront c'était pas un grand match de rugby. Eh bien non, moi je dis que c'était un grand match de rugby, malgré beaucoup d'erreurs sur le plan technique, mais c'était un grand match de rugby, et je crois, et je le répète, que c'est un grand coup de pub pour notre sport.
Ouais. Etienne, vous...
Ah, tout à fait. De toute façon, s'il y a zéro erreur, ça se termine par quelques coups de pied. Peut-être que les Fidjiens auraient gagné, parce qu'ils avaient un très bon... Ouais. Leur ouvreur est un très bon buteur, mais voilà, on a besoin de ça. Franchement, pour que le sport soit intéressant, faut que il y ait toujours de l'envie, de la passion, de l'énergie. Et les deux équipes en avaient, mais des rebondissements. Franchement, moi, on a dû regarder tous l'Écosse-Italie derrière, qui a été beaucoup plus cadenassé. Ouais. Voilà. Bah franchement, je préfère avoir vu les Fidji battre Galles ou Galles si le scénario est inverse.
Oui, tout à fait.
Bien que pour moi les Fidjiens méritent beaucoup mieux que les Gallois. Mais voilà. C'est ça qui fait aussi qu'à un moment on s'enthousiasme. Hein.
Ouais. Alors les équipes qui ont cette culture du jeu d'avant, comme les Gallois, enfin tous les Britanniques, l'hémisphère sud, n'en parlons pas. Parfois, et ça n'est que au moment de la Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde, qu'on peut se rendre compte de ça, c'est que l'envie et l'enthousiasme peuvent quelquefois l'emporter sur les fondamentaux du rugby. Et ça, c'est pas inintéressant.
Je pense que ça va être un des enseignements, parce qu'en effet, c'est que tous les 4 ans, parce que les tournées, on sait, elles sont bien, mais on sait que les équipes tournées entre quand l'hémisphère nord vient chez nous et inversement, c'est pas le meilleur baromètre. Mais là, la Coupe du Monde, voilà, on voit, je pense exactement qu'on reste percevoir qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans le rugby, dans le rugby de chez nous. Hein,
voilà. Oui, mais tout à fait, mais moi, ça me rappelle un petit peu la période où l'équipe de France rentrait dans le tournoi des 5 nations à l'époque, et où effectivement la culture de devant n'existait pas, n'existait pas encore. Il n'y avait que l'enthousiasme du rugby, le French Flair, le fameux French Flair qui fait envie à toutes les nations de rugby. Eh bien, ça a permis donc à cette équipe de France de pénétrer dans la famille. et puis de progresser. Et c'est comme ça que les pays émergents, tels que le Portugal, la Namibie, l'Uruguay, pourquoi pas, bon, cette fois-ci, ils se sont fait sortir par le Portugal, mais l'Uruguay a une culture rugby, peut-être pas au niveau des avants, mais par contre, c'est cette culture rugby à 7 qui émerge, quoi. Et c'est ce qui fait que les Fidji, hier, avec leur enthousiasme, leur volonté, leur pugnacité, ont réussi à battre, à sortir les Gallois, nation ô combien rugby, quoi.
Et puis, tous ces joueurs des îles du Pacifique, bon, alors, il y en a beaucoup qui jouent dans le top 12, donc les nations du Sud, dans les grandes nations du Sud, mais ils ont, on va dire, acquis les fondamentaux de jeu, puisque ceux qui sont dans les grands championnats, mais ils ont gardé, dès qu'ils sont ensemble, ils ont gardé si on faisait un parallèle, le football africain, je me rappelle de la Coupe du Monde en 90, quand le Cameroun a commencé à jouer de façon, je me rappelle des équipes, les Russes, tout ça, ils se demandaient ce qui leur arrivait parce que ça n'avait rien de logique, c'était le talent seulement et l'inspiration qui poussait vers l'avant et qui les a aussi poussés vers la sortie contre les Anglais, les Camerounais, parce que s'ils avaient calculé, ils seraient peut-être passés. Ils n'ont pas calculé, ils ont fait un super match, mais ils ont été battus. Mmh. Et on s'aperçoit que, depuis, le football africain a des représentants de plus en plus forts dans les Coupes du Monde. On le sait, puis en 2002, le Sénégal avait battu la France. Mmh. Et on voit, malheureusement, par moments, une culture un peu trop européenne ou trop tactique qui fait que on les verrait, parce que de plus en plus ils jouent dans les championnats européens, de commencer à respecter des schémas un peu trop figés qui fait que ils vont peut-être perdre cet esprit d'initiative, parfois individuel et parfois à tort, qui faisait qu'ils étaient toujours surprenants. Pour l'instant, ce qu'on a vu des Fidjiens, ce qu'on a vu des Tongiens, ce qu'on a vu des Samoans, on se dit, ils sont pas encore là, ils sont dans l'approche. Ouais. Alors, on a presque envie qu'il y ait une Coupe du Monde dans 2 ans pour les revoir.
C'est exactement ça. Mais c'est un petit peu l'exemple de Finomaka. Hein. Quand on voit Finomaka dans le jeu au Stade Toulousain, c'est pas du tout le Finomaka qu'on voit dans la Coupe du Monde. Quoi.
Exactement.
C'est plus du tout le même. Et donc, il a un rayonnement exceptionnel dans cette Coupe du Monde qu'il n'a pas forcément dans le championnat français. Et donc, ce sont des exemples bien précis. Des joueurs tels que Finomaka, ce sont des exemples bien précis qui m'encouragent et qui me font chaud au cœur, parce que ils sont dans un pays émergent. Ça veut dire que dans 4 ans, ces gens-là, il va falloir les tenir les aborder très sérieusement, y compris le Portugal, hein, a une équipe de rugby à 7 exceptionnelle.
Oui, voilà. Beaucoup de choses viennent du rugby à 7.
Exactement.
Où le jeu pour le jeu et non pas puisqu'il n'y a pas les avants, mais le jeu pour le jeu est énorme. Hein,
oui, tout à fait.
Dans l'esprit, ça
donc il faut que ça reste à 20 Coupe du Monde.
Ah. Moi, je suis pas contre que ça reste à 20. Le problème qu'on a actuellement en regardant ça, c'est que évidemment le rugby, la spécificité du rugby fait qu'on peut pas jouer tous les 3 jours. Ouais, heureusement d'ailleurs, même si le programme, j'ai trouvé ça assez absurde que certains pays soient obligés de rejouer 4 jours contre un adversaire.
Les Géorgiens,
ils ont joué mercredi.
Les Argentins ont joué 4 jours après avoir joué contre la France. Donc c'est pas une question qu'il y a des favorisés, pas des favoris. Par moi, j'ai trouvé ça un peu absurde. Ouais. Ça arriverait pas en foot. Où tout le monde crierait au scandale. C'est peut-être un des problèmes d'organisation de l'IRB. Mmh. Mais je me dis, en effet, si on densifie, comme le faisait le handball il y a quelques années, si on densifie un championnat, enfin une Coupe du Monde avec l'élite de l'élite, certainement qu'on va avoir des gros matchs, mais on va avoir des matchs que tous les 5 jours ou tous les 6 jours. On n'aura pas plus de. On jouera pas tous les 2 jours. Hein.
Oui, une Coupe du Monde ne peut pas durer 3 mois non plus.
Voilà, est-ce que si on fait un championnat dans lequel on dit. Dans lequel on aurait mis peut-être les Fidji, le Portugal, la Géorgie, la Namibie entre elles. Bon, les Fidji seraient premiers à chaque fois. Et donc tous les 8 ans, ils viendraient. Ils intégreraient un groupe, le groupe A, on va dire.
Un groupe A, puis groupe A.
ou ils perdraient sans doute de l'habitude des gros matchs.
Alors, on discutait l'autre jour, on était au restaurant avec certains journalistes, donc peut-être qu'il y avait un journaliste d'équipe, et on discutait, on disait pourquoi ne pas tous les deux ans alterner la Coupe du Monde reste la Coupe du Monde pour le groupe A tous les 4 ans, mais par contre entre les deux Coupes du Monde tous les 2 ans faire une mini Coupe du Monde du groupe B avec qualification directe pour le groupe A les 2 ans suivants. Pourquoi pas, ça serait peut-être ça permettrait à des pays mais vraiment très émergents comme le Pérou par exemple qui n'a pas sa place, le Maroc qui n'a pas sa place dans la Coupe du Monde, ces petits pays de l'Espagne, les Pays-Bas, etc., tous ces petits pays, de disputer leur Coupe du Monde à eux avec qualification de deux ou trois équipes pour la grande Coupe du Monde.
De toute façon, le problème du rugby aujourd'hui, c'est que il y a un déséquilibre puisqu'il y a les trois grosses nations du Sud, il y a on va dire 5 nations européennes, j'ai rien contre l'Italie, mais avant l'Italie c'était la Roumanie, donc voilà.
Plus l'Argentine quand même.
Oui, 5, et on a l'Argentine d'un autre côté. Ouais. Et donc les Argentins n'arrivent pas à intégrer l'hémisphère sud en termes de compétition. Le Tri-Nation, c'est pas le 4 nations, voilà. Et en haut, on sent bien que la formule à 5, elle a été étendue à 6 parce que l'Italie voulait, et elle n'aurait pas pu être étendue à 6 avec la Roumanie, voilà. Donc on sent que c'est déséquilibré. Équilibré et on n'arrive pas à faire vivre tout ça ensemble. Mais est-ce qu'il faut faire vivre tout ça ensemble fréquemment? Je sais pas. Le foot s'est concentré sur l'Europe. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique, pour venir, les meilleurs joueurs jouent en Afrique. Le Brésil et l'Argentine, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tas de tournées tout le temps pour rentabiliser l'affaire et on les revoit à la Coupe du Monde. Le reste, franchement, c'est marginal, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon, même s'ils font des résultats. Voilà. Je pense que le rugby n'a pas encore trouvé la bonne organisation. Je ne sais pas s'il en existe une, mais pour faire tourner ça, pour qu'il y ait un moment, ça devienne une logique que lorsqu'on se rend compte, mais c'est cela, pas d'autre. Là, on tourne autour de ça, mais parce que c'est immense. En effet, on peut pas faire une tournée, on peut pas imaginer dans une saison un mini championnat dans lequel les Blacks viendraient jouer en France et la France irait jouer en Afrique du Sud et l'Australie irait jouer en Argentine. C'est impossible.
Alors ni physiquement ni économiquement parlant, ça serait une aberration totale.
Quand on voit déjà.
Mais par contre, il faudrait que l'IRB se penche sur ces petites nations, les nations dites émergentes, parce que je crois que là dedans, on va avoir des surprises énormes. On le voit avec le Portugal, on le voit avec les Fidji, on les connaît depuis belle lurette, mais on le voit avec le Portugal. Le Portugal a des joueurs, des individualités terribles. Et je pense que c'est pas moi qui pense à ça, c'est Henri Broncan qui disait, vous allez voir, dans peu de temps, on ira chercher des joueurs au Portugal.
Oui. Mais alors justement, faut pas que ce qui a un peu pénalisé longtemps l'Afrique, pour que le rugby portugais soit bon, il faut que leurs meilleurs joueurs puissent jouer dans les grands championnats, mais il faut aussi qu'on s'arrange pour que le championnat, enfin le rugby au Portugal se développe, parce que si les meilleurs viennent tous, c'est le cas des Argentins, heureusement,
et des Géorgiens.
Des Géorgiens. Ça va pas faire développer le sport.
C'est sûr.
C'est sans doute à l'IRB de s'en occuper. Oui. Et puis je pense qu'ils ont l'IRB a raté un gros rendez-vous. C'est 2011. Voilà. C'est Japon ou Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. C'est comme si la Coupe du Monde de football était soit en Angleterre, soit en France, soit en Italie, en Espagne. Voilà, systématiquement. Il y a un moment, c'était bien qu'elle soit aux États-Unis, c'était bien qu'elle soit au Japon, c'est bien qu'elle soit en Afrique du Sud.
Absolument.
Franchement, quand ils ont voté, j'admire les All Blacks. C'est bien. La Nouvelle-Zélande est un pays de rugby. Mais j'aurais mis ça au Japon, j'aurais trouvé ça beaucoup mieux.
Je sais pas si c'est l'équipe qui est à l'origine du sondage, je crois pas. C'est pas l'équipe. Mais il y avait eu un sondage à cette époque-là.
Oui.
Et où 80% des rugbymen, des gens qui sont motivés par le, voulaient que ce soit le Japon.
Oui.
Pour des raisons évidentes.
Mais il y a un moment, on se dit, faut que ça aille ailleurs. On voit bien l'enthousiasme. La France est un pays de rugby, évidemment. Mais on voit que l'enthousiasme populaire, il n'est pas seulement qu'il y a dans les stades, il n'est pas seulement par que des passionnés de rugby, ouais, mais par des gens, voilà, ils ont envie de voir ce que c'est une ambiance avec du rugby. Voilà. Et ben je me dis qu'au Japon, avec ce succès-là, les Japonais auraient pu, on l'a vu pour le football, ouais, ça aurait pu être pour le rugby, parce que c'est quand même le pays où il y a le plus de rugbymen au monde, le Japon.
Ouais, ouais.
Il y a trois fois plus de clubs au Japon qu'en France.
Tout à fait,
D'un niveau moins fort, ouais, d'accord, mais voilà.
Mais donc, c'est un petit peu comme la Corée du Sud en football, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça.
C'est
quoi.
Dommage. C'est là-dessus. Faut que le rugby sorte de son côté. On vit entre nous.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Comme en France, il est en train de sortir du Sud-Ouest, voilà.
Ouais.
Il faut que dans le monde, et le jour, je pense, où il sera important, on aura plus ce souci de se dire, voilà, comment on peut faire entrer des petites équipes, des grandes équipes.
Étienne, vous étiez au Parc des Princes pour Portugal-Italie. Vous aimez cette ambiance, cette fête populaire, c'est une fête populaire le rugby là, pour le mondial.
Je pense de toute façon,
quand on fera les bilans, c'est...
Ah oui, on l'a déjà écrit. Moi, j'étais bluffé par l'ambiance d'Italie-Portugal, ça c'est une chose. Et deuxièmement, je crois que depuis 98, pas au début de la Coupe du Monde, mais les gens ont se sont dit, voilà, le sport, c'est le spectacle sportif, c'est un moment où on peut, ça peut être sympa. Je l'ai vu en 2003 au Mondiaux d'athlétisme, à Osaka, il y avait 15 000, 20 000 personnes dans le stade. On se regardait tous en se disant, mais c'est mort par rapport à ce que ça a été en 2003. Ouais. Ils ont fait guichet. Ouais. Pratiquement guichet fermé tous les soirs, une ambiance, même les athlètes étrangers parlent encore de Paris. Donc je pense qu'en France, on aime partager ça. Je suis pas sûr que... je veux dire que c'est 40%, 50% de passionnés, de connaisseurs de rugby, français ou étrangers, qui sont dans les stades à chaque fois. Et puis le reste, à part au Stade de France, où il y a beaucoup d'opérations de commerciales qui ont été faites, et il en faut aussi, si 20 000 places du Stade de France sont réservé aux gens qui ont acheté les places pour leur société, c'est aussi de l'argent qui rentre, faut pas cracher dessus.
Alors, une petite anecdote qui vaut son pesant d'or. Pour la première fois hier dans mon quartier, j'habite à Rambouillet, après, à la fin au coup de sifflet final de Fidji-Galles, j'ai entendu des pétards. C'est exceptionnel.
Ouais,
c'est exceptionnel parce que.
Et t'es sûr que c'était pour le rugby?
Ah oui, parce que ça. Ou alors ça serait une coïncidence énorme parce que le coup de sifflet final, terminé, boum, les pétards.
D'accord.
Je crois que les gens ont pris leurs pieds, quoi.
Ah oui, non,
les gens, même s'ils ne sont pas des spécialistes, et puis pourquoi? Parce que c'est très compliqué, les règles du jeu, du rugby, c'est compliqué pour le commun des mortels, c'est vrai. Mais quand on entend les pétards, ça veut dire que les gens ont pris leurs pieds devant leur poste de télévision, et ça c'est bien, quoi. Ça c'est bien, c'est la bonne anecdote, ça.
Et je pense même que, en effet, les règles sont très complexes au rugby. Mais je pense que ce qui amène les gens, c'est le côté, le contact, ça court, ça va. Franchement, de savoir si on déblaye, si on a talonné à la main, s'il y a du rocking, ça dépasse, je suis sûr, deux téléspectateurs sur trois.
Certainement.
Mais c'est pas grave.
Certainement.
On parle du phénomène Chabal, qui est loin, on va être d'accord, qui est loin d'être le meilleur joueur de l'équipe de France.
Oh, oui.
Voilà, de très loin. Mais qu'est-ce qui représente Chabal? Il représente cet esprit du rugby.
Ouais.
Voilà, ça pousse, ça court, ça se voit, ça percute, ça se relève, c'est... Ouais. Il y a un moment, les gens ils comprennent ça. Je dis pas que c'est l'avenir du rugby, mais qu'est-ce qui faisait que au début, attention, je fais pas de comparaison, mais qu'est-ce qui faisait qu'au début Jean-Pierre Rive, tout le monde l'a repéré, il était blond, il sortait d'une mêlée, il courait avec le ballon. Les gens se disaient, il se détachait. À ce moment-là, c'était un autre rugby. Il se détachait. Je pense que le visuel de tout ce qu'on voit. Je pense que les Fidji hier, ce que les gens ont aimé, sans connaître les clubs. Même moi, à un moment, j'ai appelé les collègues de la rubrique rugby. Je lui ai dit, mais un tel, il joue. Ah bah lui il est à Leicester, lui il est à Celle. Voilà, parce que mais quand on voit des envolées et tout, à un moment, on est pris. Voilà, c'est sympa à comprendre. Comme quelqu'un va voir Denilson dribbler 5 personnes au foot, il va pas se dire, ah oui, alors lui, c'est l'ailier de Séville, il a marqué 27 buts, il a 44 ans. Non, voilà, à un moment, il va voir... C'est ça qu'on regarde. Le judo, personne connaît les termes de judo.
Ouais,
quand on a vu les images de Teddy Riner faire voler tout le monde, on se dit pas, oh là là, ça c'est Dashi Barai, non, c'est... Non, voilà, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'il est fort. C'est ça qui pousse les gens et qui amène les gens. Tout le monde ne restera pas fan de rugby à la fin de la Coupe du Monde.
Ouais.
Mais au moins, Ouais. Il reste une envie, quelque chose. Voilà.
Et même notre ministre des Sports, Roselyne Bachelot, qui n'y entend certainement rien en rugby, la pauvre.
Ouais, mais elle aime Chabal. Elle a dit,
qu'est-ce qu'elle a vu? Chabal. Elle aime Chabal.
Voilà.
Comme la quasi-totalité des gens qui ne sont pas forcément des amateurs de rugby.
Mais il faut des locomotives finalement. Puis après, il y a des entraîneurs qui sont là pour amener la vérité, qui disent à un gamin, s'il y a un gamin qui arrive au club de Rambouillet et qui dit, je vais Chabal, on va dire non, tu vois, parce que Chabal, on va t'expliquer. Chabal, là il n'est pas utile, là, il est utile. Mais il va l'apprendre. Mais au moins, s'il vient, si on a trouvé quelque chose pour le faire venir, ou s'il dit, moi, j'aimerais être Michalak avec les chaussettes juste au-dessus de la chaussure et puis courir et tout, et ben voilà, il y a ça. Il y a eu Noah qui a amené du monde au tennis, Manodou a amené du monde, voilà. Mais tout le monde n'est pas Manodou, mais il y a peut-être plein de nageurs qui se sont mis un tatouage sur l'épaule, comme leur Manodou. Mais au moins, il y a quelque chose qui fait. Ouais. Après, ça, je pense que c'est le gros enjeu pour la Fédération française de rugby. Après, c'est de dire aux gens, maintenant, on va vous expliquer comment ça marche.
Voilà.
L'athlétisme, ça a été la même chose. L'escrime, le judo, qui, après chaque moisson de médailles olympiques. Après, il faut dire aux gens, on va t'expliquer. Parce que le judo, c'est quand on voit Riner ou quand on voyait Douillet. Voilà, et puis quand on est le mercredi matin au dojo de Rambouillet et que ça fait mal de faire des roulades et que c'est pas seulement faire tomber le petit copain.
Ouais, c'est plus pareil.
Là-dessus, c'est important.
Tout à fait.
Alors Jean-Michel, donc direction Cardiff ou bien le Stade de France,
L'équipe de France. Alors oui, bon, moi j'ai fait un petit papier sur les incessants changements qui sont effectués sont à la fois un avantage et un inconvénient pour le 15 de France. Les sélectionneurs peuvent se féliciter de disposer de plusieurs joueurs de même qualité, à la plupart des postes. La plupart des postes, on peut faire deux équipes. Il n'y a aucun problème. Cette année, on peut faire deux équipes de France. Et alors, d'un autre côté, trop de rotation nuise à l'homogénéité de l'équipe et à la sérénité des joueurs. Moi, j'ai discuté avec des gens comme Jean-Louis Lafitte de la Dépêche du Midi, qui ne connaît que le rugby, qui n'écrit que sur le rugby, etc. Lui prétend que c'est une erreur. Bon, pas moi. Pas moi. Bon, mais on sera. Je pense qu'on va être nombreux. Ça, c'est des discussions de café du commerce. Mais bon. Ainsi, à la veille des quarts de finale, plusieurs points d'interrogation subsistent et, par les temps qui courent, les hypothèses les plus audacieuses ne sont pas rejetées. Alors, Bernard Laporte n'attend certainement pas le match contre la Géorgie pour dégager l'ossature de son équipe, mais sur une impression très favorable, deux ou trois outsiders peuvent faire pencher la balance en leur faveur, malgré qu'ils soient tous sur un pied d'égalité. Lionel Boxis est le premier d'entre eux, dont nous avons déjà évoqué, je crois que c'est la première émission, où nous avons déjà évoqué la sérieuse menace qu'il représentait pour Skrela et Michalak. Mais les amateurs de grosses côtes feront bien de s'intéresser à la troisième ligne, au contraire de Betsen et Bonner. Du Sautoir n'est pas à considérer comme partant certain. Bien que le sécateur toulousain ait été irréprochable à chaque sortie, Bernard Laporte a toujours eu un penchant envers son équipier Nianga, déplorant même que son club ne l'utilise pas davantage. Pour l'instant, le sélectionneur ne lui a pas fait un meilleur sort, Nianga ayant joué à peine plus d'une heure jusqu'ici. L'ancien Biterrois a cependant une occasion rêvée, cet après-midi, de démontrer que la troisième ligne gagnerait à se doter d'une arme offensive, d'une espèce de voltigeur, certes plus recommandée contre les Italiens ou les Écossais que contre les Blacks. Alors, en principe, si le 15 de France part sur Cardiff, il aura plutôt besoin d'une grosse présence dans la zone zéro. Et Nianga, malgré de bonnes statistiques au plaquage, a moins de densité au combat que du Sautoir. A l'inverse, il a déjà prouvé que la défense la plus rigoureuse ne suffisait pas à terrasser les Néo-Zélandais. Les derniers succès sur les Noirs ont été obtenus en déplaçant le jeu sur un rythme très élevé, et Nianga est sans égal dans ce registre, ce qui en avait fait le fer de lance des tricolores en 2005 et 2006. Par sa vitesse, son explosivité et sa gestuelle, il rappelle un petit peu Olivier Magne, qui tient un rôle prépondérant dans deux victoires sur les Blacks et dont Laporte a sûrement la nostalgie. Ce poste de flanker semble la seule inconnue dans le pack du quart de finale. Les places au fauteuil d'orchestre sont occupées. La deuxième ligne risque d'être la copie conforme de celle d'aujourd'hui. Et la troisième n'en sera pas loin.
Oui. Étienne ?
Ouais, mais moi je pense qu'il fallait dégager aussi un groupe fort, je pense. Moi, je me demande si l'une des raisons non pas de la défaite contre l'Argentine, parce qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, mais je ne sais pas s'il ne faut pas donner à l'intérieur, même si on ne le dit pas à la presse, hein, mais donner à l'intérieur de son groupe des certitudes sur une équipe type. Voilà, j'ai l'impression... Vaste débat, hein.
Oui, oui, tout à fait.
Qui gagne ou qui perd, hein. Mais je me dis, à un moment, est-ce qu'on peut entretenir, alors je suis pas persuadé que c'était, qu'à l'intérieur du groupe, il n'ait pas donné des certitudes à des gens, hein. Mais est-ce qu'on peut entretenir le discours de tout le monde vaut tout le monde? Je pense pas. Il y a un moment, faut un socle fort dans un sport d'équipe, hein, où on peut pas entretenir les gens en disant t'es pas sûr d'être titulaire, tout le monde est meilleur que toi. Je sais pas. Je me demande si pour la confiance, voilà. Alors oui. Je dis ça, c'est lu après, c'est dit après France Argentine évidemment. S'ils avaient passé 40 points aux Argentins, ouais, peut-être que ce propos-là, on dirait au contraire, le fait que personne se sente titulaire fait que l'émulation amène du monde. Et d'ailleurs, il a fait tourner, y compris Sébastien Bruno. Voilà, donc je sais pas, je me demande si ça a pas un petit peu enlevé de, si ça a pas un peu fissuré la confiance d'un groupe qui pouvait exister. Et après, la seule chose que j'ai trouvé, dommage, mais là aussi on est encore dans l'affectif peut-être, c'est la sortie commune des deux capitaines, Ibanez et Pelouse, au bout de 50 minutes de jeu contre les Argentins, d'un seul coup, quand on sait ce qu'est le capitaine dans le rugby, quand on sait ce que l'esprit de groupe, beaucoup plus qu'au football, voilà, d'un seul coup, j'ai l'impression que les 13 autres qui étaient sur le terrain, ils ont dit on nous enlève les deux tauliers, qui n'étaient pas les meilleurs joueurs du match. Hein.
Ouais, mais, tout à fait.
Mais il y a toujours besoin de au moins d'un Armand de Bretelle, d'un Gueulard, ou de quelqu'un qui a été investi pour tenir le groupe. Voilà. Je me demande si c'est là-dedans que c'est...
Alors, il y a, je partage assez ton point de vue, mais il y a un autre paramètre qui me semble être très important, et Laporte, je crois qu'il a bien assimilé, c'est l'adversaire. C'est-à-dire que, contre les Blacks, on ne peut pas se permettre de faire tourner une équipe. Ouais. C'est-à-dire que là, je suis persuadé, technicien comme il est, connaissant les Blacks comme personne, je sais qu'il a son équipe type.
Ah oui, je pense qu'il l'a.
Ouais. Ça serait contre les Irlandais où là il peut se permettre davantage de fantaisie, mais son équipe type contre les Blacks, il l'a. Pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Et d'ailleurs, à mon avis, la seconde ligne et la troisième ligne, ça sera pas loin d'être celle d'aujourd'hui.
Je pense qu'il a déjà son. Alors après, il peut se passer des événements cet après-midi.
Oui,
mais je pense que ça serait même rassurant qu'il l'ait déjà.
Oui, absolument.
En tout cas, donc Angleterre, Australie, ce sera le premier quart de finale. On aura vraisemblablement Afrique du Sud, donc contre les Fidji.
Et puis il faut pas perdre de vue non plus le deuxième match,
oui,
Argentine. Laporte dit je ne le regarderai pas parce que il ne le regardera pas pour différentes raisons. Mais c'est le match quand même décisif qui peut nous ouvrir la porte de la première place. Or c'est pas pareil quoi. Plus pareil.
On a titré ce matin un long dimanche de rugby parce que ne quittez pas la télé une fois que la France a battu ou a joué contre la Géorgie. Là, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est même un peu stupide dans le programme. Ouais. Mais le deuxième match, à mon avis, s'annonce d'un meilleur niveau, d'une très grosse intincité. Et puis surtout, à la fin...
Et pourquoi pas la surprise ? Et pourquoi pas
souhaitons-le.
Eh ben, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Merci Étienne d'avoir été notre invité pendant 2 heures.
Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
C'est passé très vite et à très bientôt.
À très bientôt.
Allez, merci, voilà. Et puis on vous laisse maintenant avec notre ami Lionel de Radio Village. Bon dimanche et bonne semaine et bon rugby.
Salut, salut.
Au revoir.
Bon dimanche, RVE, il est 11h.